Allez-y, devinez de qui? Les professeurs au Muséum d'histoire naturelle de Paris.
Merci beaucoup, merci d'être là, merci de parler de ces questions d'environnement. Et pour illustrer la question de l'environnement et des gènes, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous montrer à quel point ces sujets sont des sujets de société qui intéressent non seulement les professionnels de la médecine et de la biologie, mais tous les citoyens. Et pour ça, je veux commencer par vous rappeler un dialogue qui s'est tenu dans Philosophie Magazine il y a quelques années. À l'époque, Nicolas Sarkozy était candidat à la présidence de la République et Philosophie Magazine l'avait opposé à Michel Onfray, alors à droite, donc sur la photo, mais qui était un philosophe de gauche. Donc les deux personnes ne se sont pas aimées du tout, tout de suite, et à un moment, ils se mettent à discuter du fait qu'il y a des individus qui ne sont pas dangereux, mais que chaque homme est en lui-même porteur de beaucoup d'innocence et de danger, déclare Nicolas Sarkozy. Et Michel Onfray lui répond qu'il est professoriste et qu'à son sens, on est libre. On lui demande qu'on le devienne parce que ce sont les circonstances qui fabriquent l'homme. Alors Sarkozy lui demande, mais qu'est-ce que vous faites? Le choix de la liberté de chacun. Et Onfray lui répond qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne choisit pas. Vous n'avez pas choisi votre sexualité. En fait, la fille non plus n'a pas décidé le bon matin d'être attirée par les enfants. Pour autant, on n'est pas dans l'homosexualité, l'hétérosexualité, ni pédophile. Et cette phrase-là, je vous propose vraiment de bien la réfléchir. Nous, je pense que nous sommes façonnés non plus par nos gènes, mais par notre environnement, par les conditions familiales et socio-historiques dans lesquelles nous évoluons. Alors pourquoi cette phrase est remarquable? Elle est remarquable pour deux raisons. D'abord, il est assez peu probable que M. Onfray soit beaucoup renseigné sur ce que c'est que les jeunes. Il n'en sait rien, mais il a quand même un avis dessus. Et ça, c'est le cas d'à peu près tous nos contemporains. Et cet avis, eh bien, voilà, c'est cette phrase-là, quand vous la voyez, vous savez, quasiment tout le temps, que c'est un homme de gauche qui vous parle. Parce que les gens de gauche n'aiment pas les jeunes, mais ils aiment bien l'environnement. Et alors, à l'inverse, les gens de droite, en général, ne sont pas d'accord avec ça, et ça va pas là. Je ne suis pas d'accord avec vous, j'accueille pas par penser pour plus de pédophiles. Il y a des gens qui sont des jeunes qui suivent en France, je ne sais pas parce que leurs parents sont mal occupés, mais parce que génétiquement, et lui aussi, ça l'intéresse. Ils avaient une fragilité de leur préalable. Prenez les fumeurs, ça peut être pas concerné autrement. Les premières qui se baissent physiologiques et héréditaires, les circonstances ne font pas tout, la part de l'immense est immense. Alors, vous voyez donc qu'une des difficultés de ma profession de généticien, c'est que je travaille sur un sujet qui est hautement politisé, puisque les gènes, c'est droite et l'environnement, c'est gauche. Et moi, ça me stresse parce que quand je fais une manif, je ne sais jamais à l'avance si je vais trouver un résultat de droite ou de gauche. Et donc, j'essaie de réfléchir un petit peu à tout ça. Alors, bon, notre vision de la biologie aujourd'hui, elle vient de Darwin, elle vient de l'idée de la sélection naturelle, elle vient de cette idée que les êtres vivants se développent. On ne voit pas du tout sur ce schéma, sur cette projection, mais enfin, bon, en des divergences de lignées, et que ces divergences de lignées, au départ, elles démarrent avec des variations génétiques, donc c'est un élément essentiel de tout le système, vivant, et l'étude de l'hérédité a été un élément essentiel, évidemment, de la compréhension de ce que c'est qu'un être vivant. Ça a commencé avec le cousin de Darwin, Galton, qui a montré des choses tout à fait remarquables sur l'hérédité de la taille des individus. Je pense qu'il a inventé en passage du coup des méthodes statistiques comme la régression. Mais il a aussi proposé l'idée d'améliorer l'espèce humaine et de créer une nouvelle science qu'il a appelée l'eugénique. Et l'eugénique qui s'est développée. Qui s'est développée dans beaucoup de pays, dans tous les pays en fait anglo-saxons. J'ai quelques images là de l'époque pour vous montrer quand même ce que c'était, parce que tout le monde ne connaît pas cette histoire. Alors ça, c'est la Société américaine de génétique, le bureau de la première année. Thomas Morgan, le plus grand généticien de l'époque, la présidait. Alexander Graham Bell, qui a inventé le téléphone, était là aussi. Parce qu'à chaque fois que les biologistes veulent faire une connerie, les physiciens viennent les aider, en fait. On a vu la même chose sur plein d'autres choses. Et puis les vrais acteurs, Madame Porter et Fischer, qui vont étudier exactement la même question que celle que se posait Sarkozy, en fait, tout à l'heure. D'où viennent les tarés dans la société? Et là, ils vont trouver des choses extraordinaires. Ils remontent à la généalogie d'Adelzio qui vient de 1740. Ils retrouvent 92% de ses descendants. 64 sont des débiles mentaux, 174 des pervers sexuels, 196 des illégitimes, c'est-à-dire hors mariage, 142 des pauvres et 77 des criminels et meurtriers. D'où la question pressée, est-ce qu'on va laisser les Adelzio d'aujourd'hui perpétuer cette multiplication de la misère? Parce que tout ça, c'est génétique. Voilà, une famille dans laquelle il y a un gène dominant qui disjoint, et ce gène dominant détermine l'illégitimité, la naissance en mariage. Donc la grande presse se saisit du problème. Le Sunday Oregonian vous montre la descendance de. Alors, donc en noir, c'est normaux. En rouge, les débiles mentaux mis à l'asile. En bleu, les débiles mentaux pas mis à l'asile. deux débiles qui ont eu trois filles, une normale qui a eu un mari normal, on s'est malheureusement marié sur leurs 15 enfants, mais l'autre débile qui a eu un mari débile, ils ont fait des enfants pas terribles. Dans la deuxième génération, il y a quasiment des débiles. Quant à celle-là, bon, on n'en parle pas. Bref, toute la société américaine se saisit de la question. Les États, les différents États ont progressivement adopté des lois hygiéniques un peu partout. Et au 1er janvier 1937, on est déjà à 21 159 stérilisations. Il y aura des procès, et puis ça finira avec le nazisme. Ça finira avec le nazisme. Mais... Alors sachez juste que dans tous les pays anglo-saxons, ça s'est développé. Il y a eu des stérilisations aussi en Scandinavie, il y a eu des stérilisations bien sûr en Allemagne, en Suisse. Mais alors, il y en a pas eu en France pour deux raisons qui sont sans doute liées, mais on ne sait pas bien comment. Premièrement, on n'avait rien compris à la génétique en France à l'époque. Il a fallu encore les années 50 pour que la génétique pénètre le pays. Et deuxièmement, on trouvait tout ça pas bien. Et probablement, la résistance à la génétique était liée, entre autres, à la peur de ces horreurs. Vous voyez, c'est un peu compliqué. On a presque été sciemment idiots, si vous voulez. Alors, dans la Union soviétique, c'est encore plus exprès. Il y a une très grande école de génétique, mais donc, qui va être décimée du fait de donc, l'arrivée de Lysenko, qui va faire interdire la génétique comme science incompatible avec le marxisme, surtout les théories de Engels. Donc voilà un peu l'histoire de cette relation entre gènes et je passe là-dessus. Mais donc la question qui va se poser, si on veut réfléchir à ces questions, non seulement sur un plan scientifique, mais aussi sur un plan social, que déterminent les gènes? C'est un peu compliqué. Il y a des choses qui sont déterminées par les gènes de façon relativement peu ambiguë, comme par exemple la capacité à faire des trucs spéciaux avec la langue, c'est quand même assez étonnant, mais c'est tout ce qu'on peut faire avec la langue dans le tuyau ou autre, ça c'est l'inventaire, c'est un peu plus rare. Il y a d'autres choses qui sont déterminées que par l'environnement. En gros, l'accent anglais, par exemple, les gens parlent de l'accent anglais, souvent c'est parce qu'ils sont nés en Angleterre, tout simplement, c'est pas génétique. Mais dans la réalité, eh bien, c'est moi, il y a un peu des deux. Et alors la question, c'est quelle est la part des gènes et la part de l'environnement? La part des gènes et la part de l'environnement, c'est une question, qu'est-ce que ça veut dire, la part des gènes? Je pense qu'il faut vraiment préciser ça. En fait, pour j'ai cherché des moyens d'illustrer ça. J'avais donc trouvé, un jour je regardais une course de moto, et puis il y a le gagnant qui était tout heureux, et le commentateur vient lui demander quelle est la part de la moto et la part du pilote dans la victoire. Il répond 50-50. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il pense que sans la moto, il avait de vraiment une chance de réussir, ou la moto sans lui? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire 50-50? Alors, pour essayer de. En fait, on ne peut pas faire ça avec les courses de moto, mais on peut faire avec des courses avec des parcours d'obstacles à cheval. Il existe une épreuve de chevaux hippiques où quatre cavaliers viennent chacun avec son cheval et on va leur faire faire le parcours et puis ensuite ils vont échanger. Et ils vont faire chacun quatre fois le parcours, ce qui fait qu'à la fin, chaque cavalier a essayé chaque cheval et chaque cheval a essayé chaque cavalier, bien sûr. Vous pouvez voir un peu le cheval comme l'environnement et le cavalier comme le gène, ou le contraire, c'est un gros affinité. Et évidemment, si vous trouvez ce résultat-là, ben vous allez dire, ah, c'est toujours le même cavalier qui est premier, le même qui est derrière. Vous allez dire, ben, le résultat est déterminé par le cavalier. Si vous trouvez ce résultat-là, c'est toujours le même cheval qui gagne, etc., vous allez trouver que le résultat est déterminé par le cheval. Si vous trouvez un résultat comme ça, ben, vous allez devoir faire un petit travail statistique sur votre tableau. Et en gros, vous allez regarder le score moyen. Vous allez pouvoir regarder le score moyen des chevaux et le score moyen des cavaliers. Vous pouvez dire que le score moyen des chevaux va de 8 à 12, alors que le score moyen des cavaliers va de 5 à 15. Vous pouvez en déduire que ce résultat dépend plus du cavalier que du cheval. Parce que la variation est plus grande pour les cavaliers que pour les chevaux. Mais le point important que je voudrais que vous compreniez, c'est comme ça, statistiquement, qu'on détermine la part des gènes et de l'environnement dans n'importe quel caractère, que ce soit donc la production du blé, comme je vous montrerai là, ou le QI des enfants, ce qu'on a réalisé en France dans les années 80, ça a été fait. On a trouvé une part des gènes et de l'environnement à peu près égale. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je fais un travail comme ça, le résultat que je trouve dépend des cavaliers que j'ai choisis et des chevaux que j'ai choisis, bien sûr. Si je change les cavaliers, si j'ajoute un âne à la place d'un cheval, ça va tout changer, parce que le poids des ânes et des chevaux va devenir beaucoup plus lourd sur le résultat, parce qu'à chaque fois que les cavaliers s'attendent sur l'âne, ils vont arrêter. Donc, je voudrais que vous compreniez que, en fait, la part de l'environnement et la part des gènes dépend complètement des gènes et des environnements que j'ai choisi d'étudier. Et que ce n'est pas une caractéristique du trait, c'est une caractéristique du QI des très riches à 50%. C'est une caractéristique du QI des enfants scolarisés dans les années 80 en France, en primaire. Alors, il ne faut pas oublier en plus que, bien sûr, en changeant l'environnement, je change l'effet des gènes. Je vais vous donner deux exemples que vous devez à peu près tous connaître. Hein. Tout le monde, si tout le monde donne, regardons le gène de galactosémie. Ben, si tout le monde donne du lait au bébé, les galactosémiques meurent et les non-galactosémiques ne meurent pas. Donc, le fait d'être malade sur ce paramètre dépend exclusivement du gène. Mais si jamais, dans l'environnement, il y a des gens qui donnent du lait à leur bébé et d'autres qui donnent du jus de carotte, à ce moment-là, les bébés galactosémiques qui donnent du jus de carotte ne meurent pas. Donc, l'environnement change l'expression du gène. Le gène de galactosémie ne s'exprime pas si on ne donne pas du lait au bébé. Donc, vous voyez que ce n'est pas parce qu'il y a un gène, même un gène aussi fort que celui de la galactosémie, que l'environnement change bien. Et ça, ça règle complètement le problème politique, pour le coup. Parce que si jamais, même quand il y a un déterminisme génétique fort, en changeant l'environnement, je change le résultat, alors les choix politiques de savoir comment je change l'environnement vont pouvoir modifier les résultats de santé des individus, quelle que soit l'intervention ou non de gènes. Autre exemple. Il y a une épidémie d'obésité depuis quelques années dans beaucoup de pays. On trouve des gènes d'obésité chez les obèses, c'est-à-dire des gènes qui augmentent la probabilité d'être obèse dans le milieu actuel. On sait très bien que les porteurs de ces gènes, il y a une centaine d'années, n'étaient pas obèses et que donc, dans l'environnement de l'époque, ces gènes-là ne faisaient pas l'effet de provoquer une petite obèse. Donc, je voudrais vraiment insister là-dessus. On peut déterminer la part des gènes et de l'environnement, mais attention, ce qu'on détermine, c'est la part des variations génétiques et des variations environnementales dans l'environnement et pour les gènes et pour les individus choisis. D'une part, d'autre part, si je change l'environnement, et bien sûr, si je change les individus aussi, je trouverai un autre résultat. Ce sont des résultats parfaitement contingents. Donc, le rôle de l'environnement, la détermination du phénotype, hein, c'est simplement quelque chose qu'on peut mesurer en termes de variation. Et si on change le gamme d'environnement, on va tout changer. Donc, ça veut dire que le champ est ouvert sur le plan médical et social pour modifier les résultats de maladies, même si jamais elles sont génétiques. Elles sont encore pas génétiques. Et pour finir, je vais vous dire que, en plus donc, des gènes et de l'environnement, eh bien, on a fini par comprendre qu'il ne suffisait pas de regarder ces deux éléments-là pour comprendre comment était fabriqué l'individu. Ceci est très bien expliqué dans un livre qui s'appelle La triple hélice, qui était traduit en français de Richard Lewontin. Les gens qui s'intéressent à cette question, je leur conseille de lire ce livre, il est assez court et il est très bien fait. Alors voilà, le problème est le suivant. Donc, c'est que comment est-ce qu'on définit la vie et qu'est-ce que c'est que l'information qui permet de fabriquer des êtres vivants? Eh bien, Schrödinger, dans What is Life, avait fait un travail tout à fait pionnier en 1948 avant la découverte de l'ADN, en proposant l'idée que certainement il existait une molécule stockant l'information et la transmettant d'une génération à l'autre. On s'est trompé, il n'a pas pensé à l'ADN, il n'a pas pensé à des protéines. Et à part ça, sa description du système est excellente. Il est clair que tout être vivant possède une information stockée sous forme codée sur une molécule qui va permettre de transmettre cette information d'une génération à l'autre. On sait aujourd'hui que ça, c'est bien. Mais un texte codé, le malheur, c'est que c'est une information drôlement particulière. Vous voyez ici un texte, je ne sais pas si vous avez déjà vu des choses comme ça, mais si je vous demande quelle information est contenue dans ce texte, je pense que vous n'allez pas en tirer beaucoup. En fait, c'est un truc d'imprimeur, ça fait du faux texte. Hein. C'est juste pour mettre en page des livres, mais on met des trucs qui n'ont aucun sens. Donc, un texte, il ne suffit pas d'avoir un texte, il faut en plus qu'il soit écrit de façon intelligible. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information qui est dans le texte n'est pas seulement dans le texte, elle est aussi dans le système qui lit le texte. Un texte. Et même l'information, c'est quelque chose d'assez particulier, vous voyez, parce que c'est une entité qui se trouve écrite sur un support. Alors, une des caractéristiques des supports de l'information, c'est que ça doit être des supports aussi amorphes que possible. Alors, vous vous doutez bien que si le papier était quelque chose qui interagit fortement avec l'air et qui se met à s'évaporer dès qu'on le soumet à la courant d'air, eh bien, ça sera un mauvais support de l'information. C'est parce que le papier est quelque chose d'amorphe que le papier est un bon support de l'information. De même pour l'ADN. L'ADN est une molécule particulièrement amorphe, c'est-à-dire qu'elle peut porter l'information de façon très efficace, elle peut la transmettre, mais elle ne peut pas. Mais donc l'ADN peut porter une information, mais elle ne peut, mais parce qu'elle est amorphe. Mais le résultat, c'est qu'évidemment, une information écrite ne peut rien faire. Et dans son livre de tout à l'heure, Lewin Tin écrit que les biologistes moléculaires répètent comme les moines bouddhistes répètent leur mantra que les gènes produisent des protéines. Évidemment qu'un gène ne produit pas une protéine. Un gène, c'est une information écrite sur un support amorphe. Alors, c'est ça le problème, l'information, vous voyez, c'est pas, elle n'est pas réductible à son support. Quand je parle d'information, si je vous demande qu'est-ce que vous pensez du dernier roman de Clésio, vous ne me répondrez pas, il pèse 300 grammes. Ça serait le support matériel, mais l'information elle-même, c'est quelque chose d'un peu immatériel, et ça peut paraître difficile à comprendre. L'information est quelque chose d'immatériel porté par la matière, mais sous des formes diverses. Vous savez très bien qu'on peut écrire la même chose sur un CD, sur un, dans une mémoire humaine ou sur du papier. Donc le support matériel importe peu. Pour l'information génétique, je ne sais pas si vous le savez tous, mais on vous en a montré la même chose. Craig Venter a pris des séquences d'ADN, les a bidouillées dans son ordinateur, a réuni des séquences d'ADN différentes dans son ordinateur et a fabriqué un chromosome synthétique dans son ordinateur. Et après, il a inventé une machine qui permettait de retricoter l'ADN à partir de la séquence qui était dans son ordinateur. Donc, l'information est passée de l'ADN dans son ordinateur, dans un ordinateur qui a été considérablement modifié, il l'a resynthétisée et remise dans une bactérie. Dans une bactérie dont il a enlevé le chromosome, donc il n'a pas synthétisé la bactérie, mais il a vraiment synthétisé le chromosome et le génome. C'est un génome parfaitement nouveau qui fonctionne dans une bactérie, après être passé entièrement par un ordinateur. Ça veut bien dire donc que l'information peut passer d'un support matériel à un autre, qu'elle est immatérielle, mais d'une certaine façon, mais en même temps, oui, si je vous dis, mais regardez là, et que vous le faites, et bien, l'information que je vous ai transmise a eu un effet matériel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information a un effet matériel à travers un système de lecture, que nous sommes. Nous sommes des systèmes de lecture extraordinaires. Voilà deux textes porteurs d'information qui ont eu des effets matériels énormes à l'échelle de la planète. Donc, nous transformons l'information en action. Et l'information en elle-même ne fait rien. Il faut un système de lecture pour la lire. Alors, le système de lecture, on le connaît tous. C'est des systèmes donc, de transcription sur l'ARN, de traduction. On connaît le code génétique, on connaît très bien. Et on sait pas, il est universel, et on sait très bien faire fonctionner tout ça. Et donc, la lecture du message génétique va permettre de passer d'un œuf à un embryon, ou à un fœtus et à un être organisé à travers tout un système embryologique. Donc vous voyez que la lecture de l'information, eh bien, la lecture de l'information, elle est faite par en fait, notre corps. Je voudrais comparer les gènes à une recette de cuisine. Une recette de cuisine, une recette de bœuf grossel n'a jamais fabriqué un bœuf grossel, on est bien d'accord. De même que les gènes ne fabriquent pas des protéines. Ce qui fabrique, évidemment, une recette de bœuf grossel, ça sert pour faire du bœuf grossel. Simplement, après, une fois qu'on a la recette, il faut un cuisinier. Et donc, le cuisinier va transformer la recette en quelque chose qui existe. De même que notre corps transforme notre génome en un fonctionnement physiologique. Et tout ça se déroule nécessairement dans un environnement donné. Tous les gens qui aiment la nourriture savent bien à quel point l'ensemble recette plus cuisinier plus environnement est essentiel dans le résultat qu'on va obtenir. L'environnement, c'est la cuisine telle qu'elle est fabriquée et les ingrédients que vous mettez. Et bien, dans la fabrication d'un être vivant, il y a les mêmes trois ingrédients. Le message, le génome, l'environnement, on en a parlé, mais il y a le troisième élément, c'est le système de lecture. Le système de lecture, c'est tout notre corps. Dans la cellule, c'est tout le système de transcription-traduction, mais après, avec toutes les hormones, etc., notre corps tout entier participe de la lecture de notre génome. Et quand nous produisons un descendant, eh bien, nous lui donnons effectivement une grosse partie de l'information sous forme génétique. Mais l'information, elle n'est pas que sous forme génétique, elle est aussi par le fait que ce message génétique se trouve dans une cellule, dans un œuf, avec le génome de la mère, le génome du père, avec des modifications qu'on peut apporter sur les chromosomes, mais sans changer la séquence, des méthylations, avec des changements dans la structure du chromosome, mais avec aussi des tas de produits dans le cytoplasme de la cellule. Et donc, c'est tout cet ensemble qui va constituer le troisième élément constitutif des individus. Donc, les gènes et l'environnement, deux constituants majeurs, mais le troisième, un peu hybride, qui est l'organisme. Pourquoi un peu hybride? Parce que l'organisme, il dépend des gènes et il dépend de l'environnement. et il va se fabriquer sa cuisine à lui et transmettre ça, pour dans certains cas, à la génération suivante. C'est ça qu'on appelle l'hérédité épigénétique. L'hérédité épigénétique, c'est l'hérédité qui provient de notre corps, qui donc a subi les influences de l'environnement, mais aussi évidemment les influences du génome, de notre génome, et quand on fabrique un descendant, et bien on lui transmet le génome. On lui transmet d'ailleurs une partie de notre environnement par voie culturelle, et puis on lui transmet toutes ces informations épigénétiques. C'est un sujet de recherche extrêmement actif actuellement, qui, bien sûr, provoque des passions. Il y a des gens qui disent, ça y est, l'épigénétique c'est essentiel, les gènes c'est fini, on va être tranquille. Alors ça, vous doutez, ces gens-là sont de gauche, bravo. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, hein. Ça veut juste dire qu'il y a encore une fois un peu idéologique sur les choix scientifiques, ce qui est extraordinaire. Et donc voilà, on est aujourd'hui dans le moment où on essaye d'intégrer ces trois éléments et les effets de l'environnement vont se faire sentir directement par la façon dont ils changent l'expression des gènes et indirectement par le fait qu'en changeant notre corps, ils changent l'hérédité épigénétique de tout ce que nous transmettons à nos descendants. Nous voyons donc que le monde de l'hérédité se complique encore un petit peu au fur et à mesure qu'on arrive dessus. Il reste des tas de questions de recherche sur le temps pendant lequel ces informations épigénétiques peuvent persister, la question de savoir si les informations épigénétiques peuvent influencer l'information génétique et son expression, quelles sont les relations entre l'information épigénétique et l'information environnementale. Tout ça, c'est des questions de recherche. Donc, je pense qu'il sera intéressant que votre communauté se tienne au courant parce qu'évidemment, ça va changer pas mal de choses sur la façon dont on pourra voir certaines pathologies.